Détour, Madeleine Caboche.
Décembre, fin du monde. Ça sonne un peu mexicain, ça, n'est-ce pas Frédéric?
Oui, c'est tout à fait mexicain et par endroits, la fin du monde a déjà sonné là-bas, mais ici aussi parfois.
Nous allons partir au Mexique aujourd'hui. Vous savez, depuis que Détour a commencé, le lundi et le vendredi, nous accueillons des écrivains voyageurs et cet après-midi, des cinéastes voyageurs. Il y a Julie Gilbert. Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors Julie travaille avec Frédéric Chauffard depuis longtemps sur les films. Métier scénariste, scénariste de théâtre, scénariste de cinéma. Qu'est-ce que je rajoute encore Julie?
C'est pas mal comme ça.
C'est pas mal. Et puis Frédéric Chauffard, cinéaste avec un premier long métrage dont on avait beaucoup parlé, La vraie vie est ailleurs, une sorte de road movie dans des trains, et puis celui-ci sur lequel nous allons revenir, qui est déjà sorti sur les écrans, mais qui sort aujourd'hui en DVD, donc vous pourrez vous le procurer. Ça s'appelle Mangrove, c'est le deuxième long métrage de fiction, et c'est encore le Mexique. On va aller où très précisément Frédéric, au Mexique?
Alors pour Mangrove, on va aller à San Agustinio, au sud de Oaxaca, à la pointe le plus au sud du Mexique.
Et puis un autre court-métrage avant, qui s'appelle Okumicho, Sauvé par les diables. Là, on ira où, Julie?
Justement, à Okumicho, c'est au Michoacán et c'est à l'ouest du Mexique.
Et le film Mangrove commence comme ça. Ça commence comment, Frédéric?
Alors là, on est au milieu de la nuit, c'est 5 heures du matin. On est à un croisement entre deux grandes routes, enfin, une route plus ou moins principale et des toutes petites routes qui partent de là. Il y a un autocar qui arrive. Il y a le personnage principal, interprété par Vilma Laponce, plus son enfant, qui s'appelle Matteo dans le film, qui descendent de ce bus avec d'autres passagers. Et tous, là au milieu, vont s'arrêter, attendre que des petits taxis, que des petits bus locaux passent pour envoyer en fait toutes ces personnes dans toute la région alentour.
Alors nous avons choisi le Mexique avec vous. Évidemment, ce n'est pas une émission cinéma, donc je ne vais pas vous demander comment vous avez fait les plans, quoique je me demande si je vais résister à vous poser certaines questions, mais on va plutôt expliquer comment, dans ce film Mangrove, donc qui est maintenant en DVD, comment précisément ce paysage des mangroves est extrêmement présent. C'est ce qui sera notre fil rouge dans l'émission. Peut-être Julie, qu'est-ce que c'est une mangrove?
Je ne suis pas la spécialiste parce que je ne suis jamais assez précise. Vas-y Frédéric.
Je vais faire le spécialiste du jour. La mangrove, c'est un écosystème qui se trouve principalement sous les tropiques, qui est vraiment le croisement du rio ou du fleuve avec la mer salée. Et c'est l'endroit où les marées vont se mélanger plus à l'eau douce et revenir dans l'autre sens. Et dans lequel il y a ces arbres, les mangroves et les palétuviers, qui plantent leurs racines, où les branches se transforment elles-mêmes en racines lorsqu'elles touchent l'eau, et qui se déplacent, on dit, de 1 à 2 mètres par an. Donc c'est vraiment un univers très tentaculaire comme ça, et on peut se promener. Là, on a eu la chance d'avoir un accès direct à des endroits qui ne sont pas visitables, qu'on ne visite encore moins la nuit, là où se passe une grande partie du film.
Parce que c'est très touffu, hein, c'est espèce de longue tige comme ça.
C'est touffu, c'est labyrinthique. C'est-à-dire, vraiment, si on se promène en barque tout seul, on est absolument incapable de se repérer. Tous les arbres se ressemblent, on débouche tout d'un coup comme dans des espèces de clairières. C'est extrêmement émouvant d'être dans la mangrove. En plus, il y a énormément d'animaux. Et c'est vrai que là, on avait un guide, il y a une communauté de gens qui vivent vraiment à côté de la mangrove, qui la protègent, qui servent de guide aux touristes, etc. Et grâce à une des personnes...
On va le citer.
Il s'appelle Lalo. Et c'est un homme magnifique, justement, qui nous a ouvert, on va dire, les portes de la mangrove.
Vous dites Frédéric, pardon, allez-y.
Non, je ne sais plus ce que tu veux dire. Non. Je voulais dire qu'il y a beaucoup d'animaux, mais il y a surtout les crocodiles. Et c'est vrai que du coup, on a tourné et de jour et de nuit, avec des moments, on est dans une toute petite barque à rames. La comédienne et l'enfant sont sur une petite barque. L'équipe, on est une très très petite équipe sur une barque à peine plus grande, toujours avec une seule rame. Ces barques qui se poussent avec une seule grande pagaie. Et puis, il faut tenir l'équilibre, il ne faut pas tomber à l'eau. Et puis, c'est vraiment, voilà, on entre, c'est l'aspect moite, c'est presque le cœur de la terre, comme ça. Et c'était vraiment le lien entre la plage, de la chaleur, du soleil, le côté très sec.
L'océan aussi,
voilà,
très présent.
Très
dans
présent,
le film.
Très violent. Et puis la campagne, vraiment, la mangrove était un peu le monde intermédiaire entre le peuple indigène, zapotèque, et le peuple d'expatriés, de voyageurs, d'étrangers.
On va revenir sur tout ça. Hein. On survole comme ça à toute vitesse pour que vous ayez une petite idée, les auditeurs, de ce dont nous allons parler. Mais on va y revenir sur la mangrove. Je ne vais pas
avec
vous lâcher
plaisir.
Comme ça. Mais juste dire que c'est une femme qui vient retrouver, d'une certaine façon, son passé dans ce film-là. Donc, ce qui me donne envie de vous poser un certain nombre de questions, puisque Julie Gilbert, votre enfance, votre passé, c'est au Mexique précisément.
Complètement. C'est un pays où je suis très très liée au Mexique. Effectivement, par plein d'aspects.
Comment, ça y est.
Alors la chose, en fait, je trouve que c'est une histoire qui est très belle, c'est que je viens d'un village qui s'appelle Barcelonnette, dans les Alpes, en France. Et au début du XXe siècle, ces gens se sont retrouvés vraiment ultra pauvres. C'était des paysans, ils n'avaient plus rien à manger. Et ils ont décidé, alors je ne sais pas pourquoi, mais tous, de migrer au Mexique. Donc à ce moment-là,
par pauvreté, sûrement, non?
Oui, mais pourquoi
le Mexique?
Oui, c'est assez intriguant. Pourquoi ce petit village dans les Alpes choisit le Mexique, ça je sais pas l'histoire de départ, mais ils sont partis avec sur des bateaux, et on raconte que la grand-mère de ma grand-mère est partie seule avec un chaperon qui normalement elle était avec une de ses amies et elle devait aller au Mexique, elle avait toutes ses économies et le chaperon aurait en fait joué toutes leurs économies à Barcelone à la première escale du bateau. Donc elles se sont retrouvées toutes seules sur ce grand bateau à négocier avec les matelots, je ne sais pas comment, pour arriver jusqu'à Veracruz. Et là, de Veracruz, elles sont allées à Mexico et elles ont ouvert un petit magasin de bonnets et de tricots, des petits chapeaux, etc. Et elles sont devenues riches grâce au fait que Napoléon III s'est arrêté avec sa femme et aurait acheté des petits bonnets. Et à partir de là, en fait, il y a vraiment, les Barcelonnettes ont pris une très très grande place à Mexico. Et d'ailleurs, le maire actuel de Mexico est un Barcelonnette.
Mais Julie, comment vous savez tout ça?
Parce que c'est une histoire qu'on raconte dans ma famille, justement. C'est transmis, c'est le mythe familial. Ils nous hantent tous. Et à
mais
cause
y a des
de
écrits,
cette histoire-là,
il y a au-delà de la transmission orale, il y a des.
Il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé avec ma grand-mère justement une lettre super belle, justement de cette arrière-grand-mère qui écrivait à se rester au village et qui raconte, qui dit plein de mal de ses fils, etc., etc. Mais elle parle du Mexique. Et elle raconte justement comment elle vivait, que c'était difficile.
C'était difficile.
Voilà. Et en même temps, ils aimaient le Mexique, parce qu'une grande partie de la famille est restée en fait au Mexique, donc ils sont devenus complètement mexicains. Et puis une autre partie est rentrée à Barcelonnette. Et si aujourd'hui on se promène à Barcelonnette, il y a des maisons type coloniales dans ce village. Ça semble complètement hallucinant comme ça. Donc voilà. Donc dans ma famille, on raconte cette histoire. Je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai.
On s'en fiche.
Et puis ton oncle, Patrice Gouy, voilà, qui est correspondant pour la première RFI à Mexico, a fait tout un travail de mémoire autour de
Barcelonnette. Et lui, il habite à Mexico. Ouais. Voilà.
Et lui, il a retrouvé des traces aussi.
Oui, il habite dans un quartier qui est bourré de Barcelonnettes, justement.
Il y a déjà une matière à fiction, là, d'emblée. Hein, c'est vraiment précieux et magique. Mais de là à ce que l'arrière-petite-fille débarque au Mexique.
Alors ça continue le mythe, puisque ma mère est ethnologue et elle est partie faire son travail, son premier travail d'ethnologie, elle, donc dans un tout petit village à côté de Hermosillo, donc là on est tout au nord du Mexique, dans un village yaqui. Donc les yaquis, c'est à peu près les seuls autochtones, communautés indiennes, qui ont résisté à l'invasion espagnole. Donc c'est des gens très farouches, qui ont gardé véritablement leur tradition. Et donc j'ai vécu ma première année de vie dans ce village de Potam, avec ma mère et mon père. Donc voilà, ça commence comme ça en fait, l'histoire.
Donc votre maman, elle avait aussi la grand-mère dans la tête, hein,
oui,
je
elle
pense.
Oui, elle avait ça qui résonnait. Il fallait aller embrasser cette terre mexicaine.
Frédéric veut parler.
Et pour renforcer le mythe, justement, on raconte que tu as passé ta première année la journée dans une bassine pour pas te déshydrater et la nuit dans un lit avec de l'alcool à brûler qui brûlait autour du lit pour pas que les scorpions viennent te mordre.
Voilà, bon, ça c'est aussi peut-être le mythe, hein, mais sur les photos, c'est ça.
Ça sonne vrai quand même. Hein. Mais ça veut dire que vous restez, Julie Gilbert, jusqu'à combien de temps dans ce Mexique ?
Après, on est retourné en France et après, petite, en fait, de nouveau, autour de 6-7 ans, on est retourné en fait vivre cette fois-ci au Mexique. Parce que justement, toujours ma mère, elle en avait marre de faire des allers-retours entre la France et le Mexique. Et elle travaillait donc au Michoacán, donc à Ocumicho et à Patamban. Donc là, on est chez les Purépecha, c'est vraiment une autre communauté indienne complètement différente. Où ils fabriquent des diables en terre et
voilà
et c'est avec c'est voilà c'était ça la raison principale et voilà.
Donc vous avez l'impression que ce pays effectivement a une résonance profonde en vous, c'est pas par hasard si vous y retournez faire avec Frédéric Chauffard un deuxième long métrage. Vous arrivez à dire comment ce pays vibre chez vous, qu'est-ce qu'il vous donne, qu'est-ce qu'il vous...
Ben, j'ai vraiment la sensation que c'est mon deuxième pays, c'est-à-dire c'est vraiment des racines profondes, parce que c'est évident que l'enfance marque autrement que ce qu'on fait après. Et puis, je trouve que c'est un pays tellement riche par rapport, bon, je connais pas tous les pays, mais il y a tellement d'histoires au Mexique, il y a tellement de communautés différentes, tellement d'histoires différentes, que finalement, quand on est au Mexique, on sent que quelque chose, voyez, le cœur, il bat différemment. Et on est traversé par toutes ces histoires, par toutes ces traditions, par tous ces fantasmes aussi qu'il y a sur la terre mexicaine. Et puis, le Mexique, c'est on change tout d'un coup de région, on est complètement ailleurs. On est dans les montagnes, on est après sur la côte pacifique avec cet océan extrêmement violent. Après, on est sur dans des bords peut-être plus caraïbes, beaucoup plus touristiques, où les gens viennent faire du surf. Donc, le Mexique, il est tellement multiple, il nous étonne à chaque pas. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression que le Mexique restera toujours dans ma vie. C'est-à-dire à un moment donné, j'ai toujours besoin d'y retourner, toujours besoin de me reconnecter au Mexique, en sachant qu'en même temps, c'est double, parce qu'en ce moment, le Mexique vit une période difficile. Donc c'est un pays qui est devenu vraiment violent. Et puis bon, bah voilà, il y a Ciudad Juárez, il y a tout ce qui se passe... au Guerrero et tout ça. Puis ça, c'est vraiment, ça fait mal au cœur. Parce qu'on se demande comment le Mexique peut sortir de cette crise-là.
Julie Gilbert, Frédéric Chauffard, nos deux invités. Cinéaste, voyageur, juste avant la première chanson, ça vous va, Frédéric?
Oui, ça va, une étiquette.
Non, ça
reste
peut
une
ne
étiquette,
pas aller. Hein,
mais ça,
peut...
ça va très bien.
Parce que vous parlez souvent de voyage dans les films quand même.
Non, on essaie de faire des films en Suisse, mais ça finit ou ça commence toujours ailleurs. Et voilà.
Ouais, la vraie vie est ailleurs.
Peut-être, c'est une question récurrente.
Où que j'aille, souvent j'entends battre le cœur de ceux qui m'ont aimé et sont partis ailleurs, de ceux qui m'ont donné les belles années. Mon enfance, je reviendrai auprès des amis et des rires, des racines et des souvenirs. Je reviendrai auprès des amis et des rires, des racines et des souvenirs. J'aurai traversé tous les horizons, voyagé sur des terres si loin de ma maison, vu les plages infinies et les vagues à l'âme de l'errance. Je reviendrai auprès des amis et des rires, des racines et des souvenirs. Je reviendrai auprès des amis et des rires, des racines et des souvenirs. Quand j'aurai visité les monts et les merveilles, senti toutes les ondes chaudes du soleil,
vu les neiges éternelles et les déserts peuplés de souffrances. Battre le cœur de ceux qui m'ont aimé et m'ont rendu meilleur, de ceux qui m'ont aidé à garder toutes mes espérances. Je reviendrai auprès des amis et des rires, des racines et des souvenirs.
Détour, Madeleine Caboche.
Une plage isolée sur la côte sud du Pacifique, c'est là où se passe le film dont nous parlons ce début d'après-midi, Mangrove. Mangrove qui a été sélectionné en compétition à Locarno, qui sort maintenant en DVD. Alors là, on y est. Hein. On y est vraiment. On décrit un petit peu plus, parce que les sons disent déjà beaucoup de choses, Frédéric.
En effet, là, je vois le paysage avec la neige qui tombe. Et là, au contraire, on se retrouve par 30 degrés sous les tropiques, avec en effet cette toute petite pirogue, hein, l'eau qui est verte, avec des lentilles vertes. Donc on traverse, on transperce chaque fois cette sorte de pellicule qui recouvre l'eau. Les crocodiles dont on voit les yeux disparaître.
Justement, qu'est-ce qu'on en fait des crocodiles quand on tourne? Parce que, Julie...
C'est un peu le stress parce qu'ils sont très très gros. Et puis on est effectivement sur ces toutes petites barques. Alors, heureusement, nous avons Lalo avec nous qui nous dit « Non, non, mais il n'y a pas de problème. » Oui, bon, parfois, crocodile ait mangé quelqu'un, mais il était bourré. Donc, c'est parce qu'il est tombé à l'eau. Donc, voilà. Donc,
pas le crocodile.
La veille de notre tournage, il nous a dit qu'un chien avait été mangé aussi par un crocodile. Donc, bon, voilà, petit stress. Mais en même temps...
Une forme de fascination aussi. Ouais, voilà. En même temps, fascination, ouais. Non ?
C'est très beau. Ouais. C'est assez... C'est beau parce qu'ils sont là, on a l'impression qu'ils dorment. Ils passent à côté de la barre, comme ça, ils filent. Et puis, ils ont leur queue énorme, comme ça, qui fait clac. Et c'est vrai qu'on se sent tout petit. Et puis, on a l'impression qu'on est aux racines du monde, un peu, avec ce genre d'animal en face de nous.
Julie Gilbert, vous disiez tout à l'heure émotion. Il y a aussi beaucoup d'inquiétude, de mystère dans votre film. Hein. On ne sait pas si on aurait envie d'être avec elle, l'actrice principale, le personnage principal qui rame dans ces petites rivières sombres, parce qu'il fait sombre. Il y a aussi une forme d'angoisse quand même, non ? Pas induite par le paysage, Frédéric ?
Ben, on est tout petit, et c'est ce qu'on a cherché à montrer dans ce film, et qu'on oublie un peu sous nos latitudes, à savoir on dompte le temps, la météo, les trajets, etc. Et là, on est soit face à l'océan où on ne peut pas se baigner parce que les vagues sont tellement fortes qu'elles
nous entraînent. Donc là-bas, c'est vraiment ça. Impossible.
Oui, c'est... En dessous des genoux, lorsque l'eau arrive en dessous des genoux, les vagues, elles vous ramassent et elles vous entraînent au loin. Quoi.
Donc même pas faire trompette avec les pieds.
On peut jouer un petit peu au bord, mais dès qu'on veut être dans les grandes vagues, dans la houle, on se fait emporter et on n'arrive pas à revenir. Les surfeurs arrivent parce qu'ils ont un support sous eux, ils peuvent se mettre à quatre pattes et pagayer. Les hommes, eux, nagent et s'épuisent et partent au loin. Quoi. Donc l'océan est très violent et la mangrove, c'est pareil. Donc c'est aussi apprendre à être tout petit, respectueux, écouter les gens du coin, écouter les conseils, s'y référer, suivre les conseils.
Qu'est-ce qu'on vous donnait comme conseil ?
En fait, les gens disent ce n'est pas baignable. Donc c'est simple, voilà, on peut pas se baigner. Et puis nous on est avec nos enfants, donc il y avait aussi l'idée de les enfants surtout pas. En même temps, moi je me rappelle enfant parce que c'est cette histoire, elle vient du fait que quand j'étais petite avec mes parents, on partait sur ces plages pendant les vacances et je me rappelle qu'on se baignait. Et on se baignait, effectivement, on montait avec les vagues, on avait l'impression d'être avec la taille des immeubles, et on redescendait, tatata. Un jour, mes parents ont perdu ma sœur dans l'eau, ils ont cru que c'était fini. Donc voilà, et ce qui est resté en fait du paysage, et qui était vraiment à la racine du film, et qui était une nouvelle au départ, c'était ce paysage qui ressemble à une carte postale du paradis. Il y a des palmiers, il y a la plage avec le sable fin, il y a les petites palapas, etc.
Mais qui peut être un enfer.
Tout d'un coup, voilà, on glisse vers l'enfer. Tout d'un coup, là, on est avalé par la mer. Moi, le premier mort que j'ai vu de ma vie, justement, j'avais 16 ans, c'est un type vraiment jeune, de 18 ans, avec ses copains, et qui s'est noyé à 2 mètres de moi. Et personne ne pouvait rien faire. Et là, c'est vraiment, la nature est plus forte, la nature, elle est sauvage, et quel duel on joue avec elle, quoi.
Elle demande le respect.
Frédéric, ça devait être bien aussi d'avoir, avec Julie, quelqu'un qui connaissait, au fond, ce paysage.
Oui, mais c'est sûr, tout est parti de là. On ne sera jamais retrouvé sous ces contrées sans elle, même si depuis bien longtemps.
Devenu presque mexicain.
Je suis devenu presque mexicain ou mexicanophile. Mais ce qui était très étonnant, c'est que c'est des souvenirs, cette plage, etc., des souvenirs de tes 18 ans, 20 ans, on va dire, les derniers passages là-bas. Et puis, Julie a écrit une nouvelle sur lequel il y avait des ambiances. Il y avait des ambiances de ce paradis qui peut se transformer en enfer, de ces hommes du coin, de ces hommes venus d'ailleurs qui viennent parce que c'est justement, on peut fumer des pétards sur la plage et boire d'alcool.
C'était comme ça. Justement, quand vous y étiez, vous, Julie, à 18 ans, c'était comme ça, c'était une terre d'utopie, on réinventait, oui. Baba cool un peu.
C'était vraiment ça, mais c'est aussi Tipolite, qui est la plage d'à côté, c'est vraiment, en fait, la plage de la jeunesse dorée mexicaine, on va dire. C'est-à-dire que les jeunes gens venaient dans ces palapas qui sont donc juste en feuilles de palmier, et puis il y a juste des hamacs dessous. Et voilà, on pouvait louer la place pour le hamac, tout le monde fume, boit, et puis tout le monde est tranquille. Alors, donc il y a cette population-là qui vient. Donc ça, c'était donc quand même il y a longtemps, quoi, il y a 20 ans. Et puis, il y a eu en même temps, en fait, c'est vrai, plus dans les années, dans les années 80, tout d'un coup, une vague de, on va dire, de post-baba cool qui se sont installés là. Et puis... ça a pas tourné toujours comme ils veulent. Certains ont pu ouvrir des hôtels ou donc s'en sortir. Et puis d'autres ont sombré dans la drogue, dans l'alcool, etc. Donc c'était aussi cette population occidentale qui s'est un peu perdue dans ce paradis.
En ayant le projet de réinventer un paradis, et ça a pas marché.
Voilà un peu l'endroit des utopies brisées, quoi. Des rêves de tropical complètement anéantis. Et c'est un peu ces personnages qui étaient déjà dans la nouvelle de Julie. Les lieux étaient là, mais... Nous, chaque fois qu'on est retourné, quand même une dizaine de fois entre temps, quinzaine de fois, c'était le Mexique de Mexico, ou du Chiapas, ou de la côte nord, ou d'autres endroits. Celle-là, on n'y était pas retourné vraiment là. Enfin, moi, j'y étais jamais allé. Et en arrivant, le film s'est construit de façon assez instinctive, empirique, on va dire. Ouais. Mais on arrivait 3 semaines avant le tournage pour faire le casting, pour chercher. C'était tous les personnages de ce film sont interprétés par des gens du coin, par la comédienne principale. Donc, du coup, on se disait, le père, il est là, on l'a rencontré, on boit un café avec lui, on boit une tequila, on l'engage. Ah, cette personne. Et tous les personnages de l'histoire étaient là, vraiment sur place. Donc, en effet, moi, j'étais guidé par un texte littéraire très riche en atmosphère, en ambiance, en personnages. Et on arrive sur place, et dans le bon sens du terme, on fait son marché. Tout est là, et on prend cette matière, et on essaie de la mettre
alors,
en forme.
Alors, justement, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, vous souvenez peut-être d'Alain Tanner qui disait qu'il avait toujours envie de filmer ailleurs qu'en Suisse, parce qu'il trouvait que la Suisse n'est pas un terreau de création. Vous acquiescez, il a dû déjà vous expliquer ça, j'imagine, en tant que cinéaste qui parle à un plus jeune.
Voilà, Tanner, on est très proche de lui, amicalement et professionnellement. On se reconnaît beaucoup dans son travail, ou dans ce qu'il dit, en tout cas du travail.
Et donc, Frédéric, ça veut dire que tout à coup, quand on est face à un paysage comme ça, on sent en effet que la créativité se met en route, mais en même temps, il faut faire attention, il ne faut pas qu'il prenne trop de place non plus.
Alors ça, c'est toujours le défi, en effet, de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on laisse faire, qu'est-ce qu'on laisse dire. Donc il faut toujours bien
dompter. C'est un personnage du film, vous êtes
d'accord ?
Absolument,
la mangrove, là, est vraiment, et l'océan et la mangrove sont des personnages du film, ou le Mexique en règle générale.
Mais ce n'est pas un décor.
C'est pas un décor, non. C'est vraiment un personnage à part entière. Mais je crois que c'est ça
aussi.
On aurait
pas pu se tourner ailleurs.
Non.
Enfin, c'était aussi ça, quoi. C'est pas une histoire qu'on aurait pu prendre et puis se dire, ah bah ça marche pas au Mexique, on va le tourner en Indonésie.
Non.
C'est vrai que c'était vraiment, et spécifiquement en plus, cette côte-là, quoi. San Agustinillo, Masunte, Tsipolite, la mer Mejita.
On se met de l'autre côté à Playa del Carmen, ça n'a juste rien à voir.
Voilà.
Mais c'est aussi chaque fois l'origine de nos projets. C'est-à-dire que moi, Julie vient de la littérature, moi, je viens de la photographie, étant photographe avant. Et je crois que c'est toujours la naissance de rencontres qu'on fait avec les gens. Et puis, de paysages ou de lieux. Pas paysage. Paysage, ça évoque la carte postale, le côté où on n'a pas d'interaction au décor.
Ouais.
Mais là, vraiment des. Voilà, on parlait de Tanger tout à l'heure, entre deux sons. Sète, le sud de la France. C'est des endroits où, tout d'un coup, on se dit, c'est beau. On a envie de coller de faire notre histoire là. Parce que c'est là que ça doit se passer. Et c'est souvent de manière organique que ça se passe.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression que vous cherchez à l'avaler, ce paysage, hein. Que vous cherchez à le gober par tous les pores. Enfin, il est très sensuel dans votre film.
Ben, c'est peut-être une prolongation de notre façon de voyager. C'est vrai qu'on a toujours, et l'un et l'autre, je crois que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Eu le refus de
voyager
d'être
comment,
un touriste.
Frédéric.
Quand je voyage, alors
ça évolue. Par exemple, on a une valise à roulettes. C'est quelque chose qu'on pensait qu'on n'aurait jamais dans notre vie. Comme quoi, tout arrive.
Et on s'est retrouvé à un retour de voyage avec 6 sacs à dos et on s'est dit on peut pas avoir 3 sacs à dos chacun. Donc si on a du matériel, il va falloir le mettre dans autre chose.
Ouais. Mais au début, c'était plutôt sac à dos, si je comprends bien.
Ça a toujours été de manière sac à dos, sauf que là, on a optimisé le volume pour l'enfermer dans un cube.
Avec du temps.
Avec du temps. Et le plus possible par les voies de la terre. C'est-à-dire qu'on refuse souvent d'aller à un festival pour 3 jours au Brésil parce que écologiquement, éthiquement, pour plein de raisons, d'aller 4 jours à l'autre bout du monde pour dire bonjour, voici notre film et repartir, ça, c'est un non-sens total de notre point de vue.
Lalo, il vous a appris beaucoup de choses parce que vous aviez le droit d'aller dans cette mangrove, Julie.
Bah, en fait, tout s'est passé pour ce film de façon assez justement un peu étonnante, c'est-à-dire que donc c'est un lieu qui s'appelle La Ventania et puis on est allé discuter avec Lalo et au début il nous a dit bah voilà, nous on fait des tours pour les touristes, donc si vous voulez vous louer une barque de touristes, on vous fait le petit tour.
Donc il y a vraiment des touristes qui vont visiter cette mangrove.
Oui, bah, c'est un atout de la région. Oui. Alors
c'est un écotourisme, on va dire, il y a très peu de personnes, ça reste quelque chose de très privilégié, quoi.
Oui, puis c'est des barques, c'est eux, ils ont quelques barques et puis voilà, il y a pas des hors-bords qui sont sur la mangrove ou je ne sais quoi. Donc
ils vous proposent ça.
Voilà, il nous a proposé ça et puis au bout d'un moment on lui dit bah ouais, c'est super, mais nous, on a besoin vraiment que cette femme, elle puisse tout d'un coup accoster et entrer un peu plus à l'intérieur des terres.
Il y a une scène d'amour dans la mangrove, à un moment donné, elle doit évoquer, enfin on doit tourner une scène d'amour de la mangrove, et là il nous dit, ben, je vais vous amener à l'endroit où j'ai emmené ma première copine quand j'avais 15 ans.
Voilà, c'est ça, il y a eu vraiment beaucoup d'interactions avec lui, et surtout, ben, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, normalement on peut pas aller dans la mangrove la nuit, parce que justement il n'y a pas du tout de lumière, c'est dangereux, ça gêne
c'est
les crocodiles,
vrai, ça serait vraiment
etc.
dangereux, pas seulement les crocodiles, j'imagine, de se perdre aussi.
Ben voilà, c'est ça.
Lui, sauf que lui connaît très bien, mais c'est vrai qu'on travaillait avec très peu de lumière, pratiquement qu'une lampe
donc
à pétrole.
Donc vous êtes quand même allé la nuit.
Oui. On a tourné beaucoup la nuit, ouais, absolument. Et puis avec une petite lampe de poche, on voyait très bien en éclairant l'horizon quand tout d'un coup on voit un peu comme des yeux de chat, mais qu'il y en a 10 autour. Là, Lalo, parce qu'il fallait pas inquiéter la comédienne non plus, qui devait être détendue, qui devait pouvoir jouer, faire son travail. Tout d'un coup, il nous faisait un petit signe, puis nous on disait, alors là maintenant on va faire un peu des plans, plutôt les arbres autour, donc est-ce que tu peux remonter sur la barque principale avec l'enfant? Mais c'était une manière
c'était
de dire...
C'était les crocodiles.
Voilà. Après, on joue toujours avec ça. Un bon guide de montagne va toujours vous dire il y a des risques, ça va mettre un peu plus de frissons à tout le monde. Ça restait des risques très contrôlés, très...
Mais bon, il y a quand même énormément d'animaux, c'est-à-dire que même
qu'est-ce
quand...
qu'il y a comme animaux
il y a des serpents, il y a des scorpions,
il y a beaucoup, beaucoup
d'oiseaux.
Il y avait
énormément de moustiques. Genre, les plans de nuit, on se badigeonnait des trucs carrément sur le visage parce qu'on était mais recouverts. Mais bon, c'est le propre de la mangrove, hein, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est...
Les oiseaux, disait Frédéric.
Oui, mais je n'ai pas tous les noms, je ne suis pas spécialiste, mais...
les couleurs, au moins.
Une sorte d'univers en 5D, on pourrait dire, au niveau du son. On pouvait fermer les yeux et c'est un peu aussi comme ça qu'on a travaillé le son, qui est aussi important que l'image, parce qu'on est tout de suite emmené dans un univers incroyable, quoi.
On aurait presque envie de se remettre un petit coup de son. Mais d'abord, Gérald me fait signe que il faut que je vous parle de la route. On est là. Ah, j'ai perdu le texte.
Alors, il y a les ralentissements, il y a les embouteillages, tu as
la neige,
et les trains sont en retard, on a pu le tester, on peut vous le dire.
Il y a des chances que ce soit ça. On écoute là ça.
Détour, de 13 à 14 heures sur la première.
Envie de retrouver ce son. On parle avec Frédéric Chauffat et Julie Gilbert d'un film, d'un deuxième long métrage de fiction qu'ils signent ensemble et qu'il est possible d'acheter en DVD aujourd'hui. On ne l'a presque pas assez vu quand même, ce film. On aurait pu le voir un peu plus. Qu'est-ce qu'on entend à nouveau? On est à nouveau sur la mangrove. Hein. Non? Non, ça c'est l'océan.
Non, on entend toujours les deux. C'est-à-dire que l'océan n'est jamais loin dans cette mangrove, vu que c'est cet échange des flux. Là c'est le moment où elle arrive avec l'enfant à l'endroit où est caché le couteau. Elle le laisse sur la barque toute seule et elle va creuser pour retrouver la trace du crime.
Est-ce que quelquefois il fallait faire attention, justement parce que c'était tellement beau, à éviter la carte postale et à mochir un peu?
Toujours, oui.
C'est vrai.
Ben, on est pris par cette idée carte postale, en effet. Et le fait de se retrouver dans le soir...
C'est quoi là, juste?
Alors là c'est quand on arrive... Là, c'est quand elle repart avec la mangrove, je crois. Et on est.
C'est la nuit.
C'est la nuit.
C'est la nuit quand elle pagaie, puis qu'on voit la mangrove.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Alors, je reviens sur Carte Postale.
Non, le premier jour, le premier jour de tournage, on était vraiment sur la plage avec cette comédienne qui prend très bien la lumière, qui est très belle, avec le soleil qui se couche toujours au même endroit de façon sublime sans un seul nuage. Et on arrive dans des tonalités orange, rouge, nacré, avec une caméra qui capte très bien tout ça, avec cette petite équipe, et on se dit, mais on est en train de faire une pub pour une marque de mode. Enfin, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas ça. On va raconter une histoire un peu granuleuse. On aime ce qui grésille. On aime ce qui est pas beau, ce qui est pas lissé. Et en effet, on était chaque fois surpris par la beauté. Donc, il faut essayer d'aller au-delà de ça, quoi. La comédienne est belle. Le paysage est beau. Mais nous, on veut raconter ce qui vient de l'intérieur. Et comme la mangrove, qui est parfois un peu putride. Mais c'est cette pourriture qui est belle, qui génère la vie, justement. C'est pas l'aspect lisse et beau et plastique des choses. C'est justement quand on va gratter un peu et puis on rejoint un peu la pourriture de derrière.
Alors tous les deux, on l'a dit, vous êtes des mordus du Mexique. Il y a des documentaires, il y a un long séjour, vous y vivez, hein, puisque vous habitez à Veracruz, c'est ça?
Non,
à Mexico. De 2004 à 2005, vous y passez beaucoup de temps. Et puis à un moment donné, de votre histoire de cinéaste et de scénariste, il y a ce film documentaire de 26 minutes, Okumicho, sauvé par les diables. Alors qu'est-ce que c'est ça? Qui m'en parle? Julie.
Ben c'est, donc on part de nouveau avec ma mère qui avait travaillé pendant 10 ans à Okumicho. Donc Okumicho, c'est un village très spécial parce que les Purépecha, les gens qui habitent là-bas, ont décidé tout d'un coup de faire des diables en terre. Ils ont décidé ça parce qu'un homme, Marcelino, tout d'un coup dit avoir vu le diable. Et c'était des gens qui faisaient un peu des trucs en terre, des petits sifflets, des petites choses. Et il a rencontré ce diable et le diable lui a dit « Regarde-moi comme je suis beau ». Il se tourne de chaque côté et dit « Mais fais-moi en terre et tu verras ». Alors il revient et il commence à fabriquer le diable. Et il va avoir un succès incroyable. Et après, bien sûr, comme tout le monde se copie dans ces villages, tout le monde va vouloir faire pareil.
Et donc, puis ce Marcelino, ouais. Ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même quelqu'un particulier. C'est un homosexuel dans un pays où l'homosexualité n'existe pas, en tout cas officiellement. Le diable n'existe pas plus, c'est-à-dire on n'en parle pas.
Le diable, on n'en parle pas, c'est ça, il existe mais on n'en parle pas.
Oui, mais l'homosexualité aussi, je crois.
Oui, c'est vrai. Et alors?
Donc deux choses vraiment extrêmement taboues, et c'est par là que va arriver le succès. Donc c'est tout le paradoxe de cette hyper religiosité qui va devoir gommer l'origine. Il va se faire assassiner dans une cantina, on dit que c'est des borrachos,
ça,
des
ivrognes, pour de vrai,
pour
oui.
De vrai.
Ah, oui.
Qui vont le tuer. Est-ce que c'est à cause de son succès? Est-ce que c'est parce qu'il vit justement avec une femme, deux hommes, dans une petite maison de village? Personne ne le sait. Et puis en fait, ce film va être le résultat un peu de l'enquête du terrain de la mère de Julie, Cécile Gouy-Gilbert, qui va faire ce travail ethnographique sur ce village, où on va aller, 10 ans après son travail ethnographique, réenregistrer, réinterviewer les femmes et les hommes de ce village pour savoir un peu l'origine. Et les récits se croisent, se trompent, tout le monde dit, soit les femmes disent « mais je t'ai déjà raconté ça il y a 15 ans !» Ou alors disent « ah non, pas du tout, moi, c'est moi qui ai inventé l'idée de faire des diables ». Donc c'est aussi toute une question sur la mémoire, sur qu'est-ce qu'on raconte, sur quelle excuse on se donne.
Qu'est-ce qui vous a plu là dans ce tournage?
La rencontre avec les gens, parce que ces femmes artisanes, elles sont incroyables. Elles vivent vraiment dans des maisons rudimentaires, où la cuisine est dehors, ça sent le feu, ça sent la tortilla, ça sent les frijoles. Moi, je sais pas, je trouve que ça sent la vraie vie, comme ça. Et puis, c'est vrai que les figurines, enfin, toutes ces sculptures
travail,
ouais. qu'elles font, c'est très beau, et puis c'est très inventif, parce qu'elles réagissent, c'est surtout des femmes, hein. Il y a quelques hommes qui les font, mais elles réagissent complètement à l'actualité, donc c'est-à-dire elles mettent les diables sur des trains, dans des avions, mais aussi elles avaient fait tout le bicentenaire de la Révolution française. Donc il y avait tous les révolutionnaires français en diables mexicains. Donc voilà, c'est quand même il y a des dialogues qui sont assez improbables. Donc ça c'était très beau. Puis c'est vrai que ce qui est très fascinant aussi, donc dans le film, on est tombé au moment en fait de la fête de la Vierge.
Et puis cette fête alors?
C'est une tradition assez étonnante. C'est la fête de la Vierge qui est très importante. Et puis par rapport à ce village dont la Vierge va être vraiment le tuteur, la responsable, hein, la patronne, il y a une maison au centre du village où elle se trouve et les plutôt riche famille, parce qu'il faut avoir de l'argent, sont bénéficiaires de cette maison une année à tour de rôle. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent et ils payent très cher pour être, par exemple, responsable de la Vierge en 2022, par exemple. Et là, tous les hommes de la famille vont revenir des États-Unis où ils travaillent et rentrent des fois que tous les 10 ans. Et vont mettre énormément d'argent pour préparer à manger pour 10 jours de fête. Et on va faire des parades, des cérémonies dans tout le village pour balader d'abord le Niño Jésus, l'enfant Jésus, puis la Vierge, plus les autres saints qui vont être nettoyés, repeints, rebaladés à travers le village.
Réhabillés.
Réhabillés. Et la famille.
Des nouvelles robes, voilà, des nouvelles couronnes.
Et puis, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'offrandes, beaucoup de pétards lancés en l'air, beaucoup d'argent dépensé là-dedans. Et puis, la famille d'avant va devoir partir, quitter ce sorte de petit protectorat ou de vie un peu rêvée d'une année. Et la nouvelle famille va arriver. Tout au long de l'année, elle va devoir. Les gens vont pouvoir venir visiter, faire des offrandes à la Vierge. Eux devront leur donner à manger, à boire, les accueillir, etc.
On voit ça dans le film alors ?
On le voit pas exactement, mais on voit en fait toute la cérémonie où les gens portent la Vierge et arrivent en fait dans l'église. Et c'est à chaque fois, mais ça c'est vraiment le Mexique, c'est d'une beauté hallucinante. Les femmes sont complètement habillées avec des costumes complètement brodés,
voilà, dentelles,
voilà, des choses qui brillent. Et puis les enfants portent des immenses fleurs, des lys. Donc il y a je trouve que c'est une dimension de la religion qui est complètement féerique. C'est-à-dire d'arriver dans cette église, en plus dans la nuit, puis il y a toujours des guirlandes de Noël, parce qu'ils mettent des guirlandes qui chantent Petit Papa Noël en même temps. Enfin, ce décalage, il est fascinant.
Et puis moi, c'était ma première arrivée au Mexique, donc c'est vrai qu'on est arrivé
toute première fois.
Oh, ouais. Alors, passé quelques jours au DF, à Mexico City, et puis dans un vieux combi VV... comme on n'en fait plus, là, tellement beau, on est partis les trois, Julie, Cécile et moi, avec une petite caméra et du matériel.
Cécile,
du son.
C'est la monteuse, non ?
C'est ma mère.
Ah
c'est
oui,
mère
pardon,
Cécile, c'est la maman. Après, c'est la monteuse, c'est une autre histoire, mais c'est aussi la monteuse. Et là, d'arriver où on est les trois personnes seules, étrangères, au village, et passer vraiment tout ce temps avec les personnes, avec le questionnement de comment on est, comment on se situe, est-ce qu'on est néocolon, est-ce qu'on doit faire des offrandes, est-ce qu'on doit offrir des bières,
On fait des offrandes ?
Ben, là, sur le moment même, je partais d'une sorte d'éthique qui dit qu'en documentaire, on ne paye jamais les gens parce que c'est donnant-donnant, mais on ne va pas payer le sujet parce qu'on est là dans du documentaire. Et après coup, j'ai regretté de ne pas être arrivé spontanément à chaque fois avec des grosses caisses. Je dis moi parce que c'est moi qui tenais la caméra, donc c'est toujours autour de moi que ça se regarde et j'étais l'homme. Ouais, c'est plus une position, voilà. Je me souviens de Cécile retrouvant les gens qu'elle connaît, Julie aussi, voilà. On s'asseye autour des femmes qui sont en train d'éplucher le maïs. Moi, je vois les femmes qui épluchent le maïs. Julie et Cécile commencent à faire pareil. J'ai envie de prendre le maïs et de faire pareil et de papoter avec. Je vois les hommes tous alignés sur le mur en train de boire des bières. Et je comprends très clairement que je vais vraiment passer pour un âne si je me mets à éplucher, alors que je trouve que c'est tellement sympa. Alors, je laisse le maïs. Je vais sur le petit muret. Je prends une bière, j'en offre une au voisin. Puis, on bouge pas.
Mais il n'y a pas la bouche qui fait en même temps. Il fait une bouche macho, là, juste maintenant.
Et on regarde l'horizon, on regarde des femmes qui travaillent et on bouge pas. Et voilà, je me sentais, c'est vrai, plus à l'aise, plus assumant mon côté féminin à faire le maïs et à discuter avec ces femmes, que de regarder l'horizon, fumer des clopes, boire des bières, et puis de temps en temps, à la cinquième bière, faire un gros raw, et puis en prendre une suivante. Donc voilà, c'est comment on se représente là-dedans. Et si c'était à refaire, ben, je serais arrivé avec chaque fois, ok, on vient vous filmer, mais voilà, pour 200 francs de bière, de Coca-Cola, et chaque fois de pouvoir être large dans l'autre sens aussi.
Et puis le néocolonialisme, on avait fait la paix avec ça.
On
évolue.
On évolue.
C'est-à-dire, alors c'était comment avant et c'est comment aujourd'hui ?
Alors, on évolue avec les pays. Julie, vas-y.
Non, je pense que effectivement, quand on est plus jeune, on a des espèces de visions comme ça où, par exemple, on détestait se mettre dans la position de tourisme et on voulait tout le temps se fondre dans la population locale. Moi, j'ai vécu à Cuba pendant 6 mois. J'ai donné mon passeport à Cuba pour devenir local. J'avais la libreta et je mangeais les.
C'est quoi la libreta ?
C'est le petit carnet de rationnement. J'étais hyper fière de faire ça. Alors oui, parce que du coup, on vit des choses que on vivrait pas. Et en même temps, à un moment donné, il y a quelque chose de ridicule. On habite en Suisse, on a des salaires suisses. Et voilà, et si on peut au moins juste rendre l'appareil à ces gens au lieu de leur piquer encore leur sac de fricoles, je pense que c'est bien, quoi. Donc voilà, c'est ça, d'évoluer. Et c'est de savoir être à sa place et puis simplement d'être dans un vrai partage avec chacun notre histoire et notre réalité économique et géographique.
Okumicho, sauvé par les diables, et puis le film Mangrove dont on vient de parler. Si on veut se procurer tout ça, le DVD Mangrove et celui-ci, on fait comment ?
Alors le DVD, il est en vente dans les grands marchés, les supermarchés, enfin
voilà,
dans les grands vendeurs de disques, dans les grands magasins, voilà,
pas chez la, les boulangers,
pas la bodega du coin, exactement, avec trois
et celui-ci au
et puis sur internet aussi, soit sur notre site qui est lesfilmsdutigre.com.
Alors on le redit lentement.
www.lesfilmsdutigre.com au pluriel tout attaché.
Voilà.
Et puis celui-là, il n'est pas en vente, mais il est en accès libre sur internet, sur le même site, on peut y accéder et le voir gratuitement.
Okumicho, sauvé par les diables, on écoute un extrait sonore du film.
Mas em boca quando os coricos Tchutrex apetito Má Aí é um coriqui com patito Tchet com mar e vem curar costeão Não mas em boca quando os coricos Tchutrex apetito Má
Una banda.
La banda de Okumicho.
Voilà. Je crois qu'on a donné envie à nos auditeurs d'y aller, à Okumicho. Ah, on entend la suite.
Ouais. C'est la vieille Rutilia qui nous parlait de Marcelino. Ouais.
Et qu'est-ce qu'elle dit, elle?
Elle dit...
Ah, que oui, c'était un bon gars, qu'elle l'avait bien connu, mais que bon, c'est vrai, il avait des problèmes un peu avec les autres et tout ça. De toute façon, ils y vont tous de leurs petits commentaires...
Alors, on va sortir de ce film et je me disais, mais au fond, quand on a filmé là-bas au Mexique à plusieurs reprises et puis quand on y a vécu, comme vous l'avez fait à Mexico, on arrive à filmer la Suisse, Frédéric ?
D'autant plus parce que ça nous a donné un peu d'énergie pour revenir, quoi. Faut fuir, mais faut avoir l'énergie de revenir aussi. Et je pense que c'est toujours l'importance d'aller ailleurs pour regarder son pays différemment.
Est-ce que quand tous les deux vous êtes partis voyager assez vite, hein, à 17 ans, vous avez commencé à voyager quand, Frédéric?
Seul, ouais, 17-18 ans.
Ouais. Ouais, ouais. Et puis en plus, vous êtes né à Agadir, au Maroc, et vous avez vécu une toute petite enfance à Agadir, donc il y a déjà ça, l'idée de l'ailleurs, vous l'avez avalé avec le biberon, non?
Absolument, ouais. Hein, ouais, je crois.
Pour revenir à Payerne, mais enfin, ça, il reste quelque chose de cet Agadir, là, d'ailleurs, non?
Plus que de Payerne, oui.
Plus que Payerne. Bon. Alors la question était la suivante, est-ce qu'à un moment donné, on part parce qu'on étouffe?
Assurément, mais je pense que, si c'est moi qui parle, c'est que je suis plus suisse, moi je suis né suisse, Julie française, et après on a croisé un peu les nationalités. Il y a une période d'étouffement total qui est l'adolescence, mais comme partout, je crois, on étouffe sa famille, on étouffe... Moi, c'était de la Suisse, principalement. Et puis cette période peut se prolonger. Et puis après, ben, on l'amadoue, Voilà, après il y a des changements au pouvoir, il y a des nouveaux présidents qui me font vraiment étouffer, me feraient repartir vraiment en courant. Donc vraiment des aspects du pays qui me font vraiment peur, où je me dis mais on a tout pour être plus large, pour être plus généreux, pour être plus ouvert, et on ne l'est pas. Et ça c'est des choses sur lesquelles je me heurte beaucoup. Et puis ben voilà, il y a deux solutions, soit on étouffe et on fuit, soit on étouffe et on essaie d'en faire quelque chose. Et c'est vrai que là, avec ce que disait Julie tout à l'heure, notre prochain film, on l'imagine en Suisse, on est en train de l'écrire et il se passe en Suisse, même s'il débute en Afrique et il finit sur la Méditerranée, peut-être pour l'instant. Et puis, on pensait à une phrase, j'ai pas envie de la citer.
Ouais, non, on a lu il n'y a pas très longtemps le livre d'une philosophe qui s'appelle Marie-Claire Kallochop. Et dans un
Suisse,
Suissesse, c'est vraiment une incroyable dame. Et dans son dernier livre, elle cite l'histoire d'une femme qui avait caché en fait des étrangers kurdes et qui avait été dénoncée par son village.
En Suisse.
En Suisse. Hein. Et donc, elle était passée en jugement. Et elle avait été jugée pour ça.
Accusée.
Et en sortant du tribunal, elle avait enlevé ses chaussures et elle avait dit « Je veux moi aussi sentir cette terre qui est aussi la mienne ». Et cette phrase, nous, elle résonne très fort en se disant « C'est vrai qu'on a toujours envie de se tirer quand il y a des problèmes parce qu'on n'en peut plus ». Et tout d'un coup de se dire « Mais si nous aussi, on se réapproprie cette terre et puis qu'on lui donne aussi l'idéal qui nous semble important, c'est-à-dire justement ouverture, générosité, partage, accueil des étrangers, etc. Et tout d'un coup nous aussi de vraiment travailler cette terre au lieu d'aller
de fuir,
d'être des acteurs du changement ici plutôt que d'aller chercher le bonheur ailleurs.
Donc ça, c'en est où du stade d'écriture?
On travaille là-dessus. C'est-à-dire, c'est là, on est à la première phase du scénario, première version.
Et ce serait une histoire d'amour.
D'accord. Voilà. Bon, alors cette enfance-là, l'enfance à Agadir, vous êtes retourné à Agadir?
À Agadir, j'y suis retourné, mais très peu, donc à mes 10-12 ans. Et là, j'en reviens, j'y étais il y a 3 semaines, je suis allé, pas à Agadir, mais au Maroc. Je suis parti faire un travail, une sorte de travail personnel en photo et en son, du côté du sud de l'Espagne. Et arrivé à Tarifa, il pleuvait, et j'ai pris le ferry et je me suis retrouvé vraiment par hasard à Tanger. Et j'ai passé quelques jours là-bas, faire une sorte de carnet intime, vidéo, son, image. Et pour moi, voilà, ça a été une sorte de Madeleine de Proust, une sorte de retrouvaille avec aussi la terre qui est la mienne.
C'est vrai.
Oui, qui était très, 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 très beau.
Ah ouais. Vous viendrez nous en parler ?
Avec grand plaisir.
Et puis, cette enfance, la vôtre au Mexique, et puis ce tournage avec cette femme qui retrouve un petit bout d'enfance, elle existe comment, cette enfance, dans votre tête ? Est-ce que c'est quelque chose qui est réglé ? Est-ce que c'est quelque chose qui continue à...
Je pense que ça va toujours continuer. C'est vrai que tout ce lien au Mexique, il existe dans mes textes. J'ai écrit énormément de textes qui se passent au Mexique, que ce soit justement à Ciudad Juárez, que ce soit chez les Zapatistes.
Mais c'est une enfance belle.
Très belle. Très belle, vraiment. En fait, je pense toujours à Gabriel Garcia Marquez qui dit que l'enfance, c'est comme, elle a il dit olor a guayabas podridas, donc l'odeur de goyave pourrie. Et moi, j'ai vraiment, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire, le Mexique, il a cette odeur, ces histoires, cette violence, cette fascination. Et en fait, ça nous hante. Je pense que les gens j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la même situation que moi, qui sont des franco-mexicains. Et on est habité par ce Mexique qui est un peu fantasmé, parce que c'est pas le Mexique complètement réel, mais qui nous habite complètement. Et c'est vrai que je pense que je le porterai toute ma vie. On l'a transmis, hop, le virus à nos enfants rapidement. Là.
Les enfants aussi, les petits, ils sont mexicains.
Ouais. En 2004, on a vécu 6-7 mois avec notre premier, qui avait 2 ans. Donc, il est à la crèche là-bas, qui était...
Il habla espagnol.
Il le comprenait. Voilà. Et la petite, là, a très envie, donc elle apprend l'espagnol actuellement. Ouais.
Bon, et après le film suisse, vivre définitivement là-bas ?
Ça me semble complexe de vivre maintenant, en ce moment. C'est vrai que là, on va voir, il y a un nouveau président du prix, Peña, comment il s'appelle déjà ? Sofrito. Peut-être qu'il va faire la paix avec tous les gens de la drogue.
Mais c'est pas sûr.
C'est quand même bizarre. Enfin, je pense que c'est difficile aujourd'hui de vivre au Mexique.
Et puis notre vie se construit là et on a des choses à faire là, je crois aussi.
Surtout que vous avez des émissions de radio que nous allons vous proposer. Donc restez là. Merci à tous les deux. On a passé un très beau moment.
Merci.
Pero luego se murió pues ya. No, Marcelino ya se murió, Marcelino. Ya no estaba.
Pero hace como 40 años que él murió.
Super idée, Gérald. Merci beaucoup. Voilà, on se quitte comme ça. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Demain, nous partirons au Japon. Ce sera un autre genre. Et tout à l'heure, après les informations de 14h, vous avez rendez-vous avec Mélanie Croubalian. Et n'oubliez pas, le DVD est sorti, Mangrove. Il est 14h.